me parle ici d'une question qui est plutôt pour la critique. Peut-on parler d'expérience métaphysique ? Donc ce sera pour la critique. Dans la ligne de la substance, le propre de la personne, n'est-ce pas la rationalité ? N'est-ce pas la rationalité qui apporte un surcroît spécifique d'autonomie à la personne, alors que tout être substantiel en tant que substance est autonome? Je veux bien, c'est parce que j'avais dit la substance spirituelle, je veux mieux dire substance spirituelle que rationnelle. J'aime pas beaucoup ce terme rationnel, je vous, n'est-ce pas, surtout dans le contexte d'aujourd'hui. Alors quand je dis substance spirituelle, ça veut dire ça. C'est pas autre chose. Donc ne mettez pas rationnel de cette manière-là, parce que ça fait trop penser à le point de vue de l'animal raisonnable, vous voyez, rationnel. Alors, je crois qu'il faut tout simplement comprendre que l'âme spirituelle, comme j'avais essayé de vous le dire, a quelque chose de particulier au point de vue de la substance, puisqu'elle subsiste par elle-même. Je crois que c'est exactement ce qui est souligné ici. Elle a donc une autonomie plus parfaite et plus profonde. Vous voyez, donc c'est pas la peine d'ajouter plus. Alors, nous allons essayer. Y a-t-il d'autres questions ? Parce que nous allons maintenant entrer, après avoir vu comment la métaphysique s'achève par le point de vue de la personne, qui est en quelque sorte le pos de tout ce que nous avons dit précédemment. On comprend très bien, c'est toujours la même démarche qu'il faut arriver à saisir progressivement au point de vue philosophique. On part de l'expérience, l'induction, où on découvre le principe propre. À partir du principe propre, on découvre la propriété, parce qu'on revient sur la réalité. Bon, on découvre de nouveau un nouveau principe propre, et on revient sur la réalité pour découvrir comment, de fait, se trouve réalisée la substance et le point de vue de l'acte. Donc il faut bien saisir ces deux moments de la démarche métaphysique, la découverte des principes propres et ensuite la manière dont la réalité existante de fait peut être comprise dans la lumière même de ces principes propres. Et donc en dernier lieu, toute la démarche métaphysique s'achève dans cette recherche de la personne, de l'homme en tant qu'il est une personne. La métaphysique a mis en pleine lumière l'exigence de ce que représente le point de vue de l'âme spirituelle et le point de vue de l'esprit par le point de vue de la finalité et le point de vue de la découverte de la vérité. On peut donc avoir vis-à-vis de l'homme, grâce à la métaphysique, une vision plus pénétrante sur le problème de l'âme spirituelle qui subsiste par elle-même et le point de vue de son dépassement par la finalité et par la recherche de la vérité. Et en même temps, comprendre qu'il y a un conditionnement constant, puisque de fait, l'homme, par le point de vue de la biologie, par son point de vue de sa nature, de vivant biologique, implique des étapes successives. Je crois que c'est cela qui nous permet de comprendre que le problème de la personne au niveau métaphysique ne nous donne aucun nouveau principe, mais nous fait comprendre une nouvelle manière d'exister, une manière différente d'exister. Une personne, c'est un tout, et pas un principe. C'est un tout existant d'une manière spéciale, parce qu'il y a l'esprit. Aucune autre réalité que nous expérimentons ne sont des personnes parce qu'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas l'âme spirituelle. Et l'esprit implique le point de vue de l'intelligence et de la volonté. Donc il n'y a pas cette recherche de la vérité, il n'y a pas la possibilité d'une source d'amour. Alors maintenant, après avoir fait cela, essayons au plan philosophique et métaphysique de voir que, après avoir posé le problème, existe-t-il un être plus parfait, un être antérieur à la personne humaine, je crois qu'il faut aborder, face aux athéismes contemporains, le problème de l'existence possible de l'être premier, au plan métaphysique, je dis possible, l'existence possible de l'être premier, il faut aborder ce problème par la personne. Et c'est là où je crois qu'il faut vraiment avoir un regard très nouveau par rapport à la manière dont saint Thomas présente le problème et dont les anciens pouvaient présenter le problème. C'est par rapport à la personne humaine. Et on comprend très bien, parce que pour les anciens, l'univers physique représentait un tout et représentait une perfection tout à fait particulière, le mouvement circulaire qui montrait le point de vue de l'éternité. Donc l'univers physique était la réalité la plus parfaite qu'on pouvait expérimenter. Tandis que pour nous, la réalité la plus parfaite qu'on peut expérimenter, c'est la personne. Vous voyez, je vais en sens inverse de tout ce que Freud dit. C'est intéressant à voir. Et ça, c'est important à souligner. Parce que Freud souligne que depuis la découverte de Copernic, depuis l'évolution, depuis sa découverte de l'inconscient, l'homme est réduit à très peu de choses. Avant, les pères de l'Église voyaient l'homme au centre de l'univers. Ils voyaient cette perspective. Ils voyaient que, puisque tout l'univers tournait autour de la Terre, et que la Terre, c'est le lieu de l'homme. Au fond, on a détrôné, dans la perspective freudienne, on a détrôné l'homme. Il n'est plus roi de l'univers. Il est relatif à tout un univers matériel qu'il dépasse. Eh bien, je crois qu'il faut prendre la démarche juste inverse et de montrer que, de fait, en raison des connaissances nouvelles par rapport à notre monde physique, par rapport aux étoiles, aux galaxies, on peut montrer au contraire l'importance plus grande de l'homme. C'est le corps de l'homme qui est le milieu de notre univers, qui est le lieu de l'univers, le lieu. Parce que c'est la réalité physique la plus parfaite que je connais. Le corps de l'homme, au point de vue physique, est plus parfait que les étoiles, plus parfait que les galaxies. Il n'a pas un mouvement circulaire uniforme, n'est-ce pas? Parce que ça deviendrait dangereux s'il avait un mouvement circulaire uniforme. Ce n'est pas ce qu'il caractérise, avoir un mouvement circulaire uniforme. Il ne tourne pas toujours en rond. Il a des possibilités de circuler, surtout avec les instruments qu'il a, avec une rapidité beaucoup plus grande. C'est avec les instruments, donc ça ne modifie absolument pas sa nature humaine. Mais l'homme, le corps de l'homme, reste le lieu de l'univers. Parce que c'est le corps le plus parfait. Oui, alors c'est important, parce que pour essayer de découvrir l'existence d'un être plus parfait que ce que nous voyons, il faut se poser dans la situation de la réalité la plus parfaite. C'est normal. C'est tout à fait normal. Si on veut être un peu intelligent, je ne veux pas, à partir du caillou, essayer de découvrir l'existence de Dieu. Ce n'est pas si commode que ça. Je pourrais, évidemment. Mais il y a quelque chose de plus rapide, c'est de me situer par rapport à l'homme. Parce que l'homme est un peu plus parfait que le caillou. Et c'est justement le point de vue de la perfection et le point de vue de la limite qui me permet de poser l'existence de Dieu. Donc, je n'entre pas dans le problème ici, nous verrons ça jeudi, n'est-ce pas? C'est le problème de l'existence de Dieu. Mais c'est important de le souligner, ça. C'est important de le souligner et d'essayer de le comprendre. Donc, après avoir découvert l'existence d'un être premier à partir de la considération de l'homme, et après avoir saisi les limites de la personne humaine, le philosophe essaie de comprendre des liens qui existent entre l'être premier et les réalités existantes, c'est-à-dire l'homme. Quelle relation existe-t-il entre l'être premier qu'on appelle Dieu, selon les traditions religieuses et selon la foi, et l'homme? Et nous découvrons là le problème de la création. Et nous découvrons là le problème, est-ce que l'âme spirituelle, qui est une âme spirituelle, n'est-elle pas nécessairement, immédiatement, créé par Dieu. Est-ce qu'une personne, comme telle, en tant que personne, n'est-elle pas immédiatement dépendante de l'être premier? Tandis que le petit caillou n'est pas dans la même dépendance. C'est le propre de l'esprit. C'est le propre d'une substance spirituelle, d'être dans cette dépendance immédiate. Par le fait même, il y a comme une nouvelle vision, qu'on peut appeler une vision de sagesse, une nouvelle vision dans la lumière de la création par rapport au problème de la personne humaine. Et c'est cela que je voudrais souligner avec vous. Parce que c'est nécessaire, si vraiment toute la métaphysique en tant qu'analyse, se structure autour du problème de la personne humaine, si la découverte de l'être premier n'ajoute rien au plan métaphysique à mon concept d'être, si la découverte de l'être premier ne modifie rien à toute ma métaphysique, c'est très important de comprendre ça. C'est pas en découvrant l'existence de Dieu que j'ai un nouveau concept d'être. Parce que je découvre l'être premier comme celui qui transcende tout ce que je conçois. Et je ne l'affirme que par le point de vue d'un jugement d'existence. Et dans ce jugement d'existence, il est nécessaire qu'il existe un être premier, acte pur, que nous appelons Dieu. Il n'y a aucune modification de mon concept d'être. Ça peut troubler certains, tant mieux que ça les trouble, parce que ça les oblige de réfléchir et de comprendre que la découverte de l'existence de Dieu ne modifie pas mon concept d'être. Je dis ça, c'est parce que beaucoup disent que ça modifie mon concept d'être. Évidemment, dans la mesure où on a un concept de Dieu, évidemment, ça modifie mon concept d'être. Mais si je n'ai pas de concept de Dieu, concept au sens fort, c'est-à-dire le fruit de l'appréhension, j'ai un nouveau jugement d'existence. J'ai un nouveau jugement d'existence. Mais je n'ai pas un nouveau concept d'être. Vous allez me dire, mais c'est impossible, s'il y a un nouveau jugement d'existence, il y a donc nécessairement... Non, pas du tout. Parce que le propre du jugement d'existence, c'est d'adhérer à la réalité et de dépasser ce que je conçois. Et donc je peux avoir un nouveau concept, un nouveau jugement d'existence, sans avoir un nouveau concept. C'est très curieux, ça. Mais c'est le propre, justement, du jugement d'existence. C'est que le jugement d'existence est un dépassement par rapport au concept. C'est là où je vois ce que c'est que la vie de l'intelligence. C'est déjà vrai au niveau du jugement d'existence, mais c'est encore beaucoup plus vrai au niveau de ce jugement d'existence qui affirme qu'il est nécessaire qu'il existe un être premier, acte pur, que nous appelons Dieu. Si donc la découverte de l'être premier, la découverte de l'existence de l'être premier, pour bien préciser, si la découverte de l'existence de l'être premier ne modifie en rien ma métaphysique, ça modifie mon jugement anthropologique. L'existence de l'être premier transforme complètement l'anthropologie, mais radicalement. C'est ça qui est très important à voir. Ça ne modifie rien au niveau métaphysique. Vous voyez comme c'est important de bien distinguer la métaphysique et l'anthropologie. Et quand vous confondez les deux, vous voyez très bien ce que c'est que l'ontologisme. C'est la confusion de la métaphysique et de l'anthropologie. Confusion de la métaphysique et de la théologie, du jugement de sagesse, et donc avec l'anthropologie. Alors, c'est ça qui m'intéresse ici, c'est d'essayer de comprendre comment l'affirmation de l'existence de l'être premier va modifier mon regard sur l'homme, en lui donnant une nouvelle profondeur. Et cette nouvelle profondeur sur la personne humaine va, par le fait même, modifier tout ce que j'appelle l'anthropologie. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'il y a une anthropologie religieuse. Mais il n'y a pas une métaphysique religieuse. Il y a une anthropologie, c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il y a une anthropologie chrétienne. Mais il n'y a pas de métaphysique chrétienne. Tout ça, c'est la même chose, hein, ça revient exactement sur la même distinction qu'on fait. Au sens rigoureux, il n'y a pas de métaphysique chrétienne. Au sens rigoureux, il n'y a pas de métaphysique religieuse. Mais il y a une anthropologie religieuse et une anthropologie chrétienne. Alors ça, oui. Il y a une nouvelle vision sur l'homme à partir de la foi. Il y a une nouvelle vision sur l'homme à partir de la création. Alors, quelle est cette nouvelle vision sur l'homme à partir de la création ? C'est de comprendre que mon âme spirituelle est directement créée par Dieu. Aristote avait déjà senti ça en disant que l'âme humaine vient du dehors. Elle ne vient pas des parents. Elle vient du dehors. Alors, du dehors, on voit ce que ça veut dire. Elle vient du transcendant. Elle vient d'une immanence encore beaucoup plus grande que l'immanence des parents qui communiquent la vie. L'immanence de la communication de la vie, c'est très bien cette immanence de la communication de la vie. Mais il y a une immanence beaucoup plus profonde qui est l'immanence de l'être, du créateur, qui atteint la réalité créée dans ce qu'elle a de plus intime. Et donc, la communication de l'âme spirituelle se fait dans la plus grande intimité de notre être. Et je dis bien de notre être, pas seulement de notre vie, de notre être. L'âme spirituelle est créée en atteignant fondamentalement notre être. C'est pour ça que vous ne pourrez jamais préciser, c'est la question que se posent certains médecins. Dimanche dernier, j'ai assisté comme ça à un petit colloque entre médecins. C'était très, très intéressant de voir ces médecins qui disputaient indéfiniment les uns par rapport aux autres. Moi, j'écoutais parce que j'ai pris la parole qu'au terme, à la fin, pour leur montrer que leur problème était un faux problème. Et que métaphysiquement, je pouvais dire que leur problème était un faux problème. Alors, tous les opposants se sont réconciliés en disant, mais alors, on discute pour rien? Je dis, exactement. Parce que vous ne savez pas en tant que médecin ce que c'est que l'âme spirituelle. Alors ils discutaient pour savoir, vous savez, à quel moment on pouvait dire qu'il y avait la mort. Alors on peut préciser indéfiniment. À quel moment, comme ils étaient croyants, ils parlaient de l'âme spirituelle, à quel moment l'âme spirituelle quitte le corps, comme s'il y avait, vous savez, un dernier terrain. L'âme spirituelle, il y a alors le dernier moment où elle quitte. Oui, alors il faut préciser le dernier moment où elle quitte. Où elle quitte le corps, où elle s'en va. Elle retourne, elle s'en va. Alors les uns disaient à ce moment-là, d'autres disaient ça. Le terme technique qu'ils donnaient, c'était très simple. Le terme clinique qu'ils donnaient, c'était très intéressant de voir ça. Pour essayer de saisir le dernier moment où elle quitte. Comme si on pouvait saisir. On peut saisir, en effet, le dernier moment, d'une certaine manière, où il y a le vivant. Où il y a des signes du vivant, des signes, des manifestations du vivant. Mais je ne peux pas dire plus, parce que si l'âme spirituelle, elle est une substance, elle atteint le corps d'une manière indivisible. Tandis qu'en faisant ça, on voudrait avoir le divisible. Elle atteint le corps d'une manière indivisible. Ça, c'est sûr. Dieu crée l'âme spirituelle dans le corps et l'âme spirituelle atteint le corps, informe le corps, au-delà de ce que je peux constater. Je ne constate que des effets. Et donc, ce sont des signes, vous voyez. Je peux raisonner par mode de signe, mais pas plus. Je ne peux plus raisonner scientifiquement. Par mode de signe. Alors, évidemment, quand on leur dit que... L'âme spirituelle n'est pas... Vous voyez, on raisonne un peu comme si l'âme spirituelle était de cet univers. Alors de cet univers, je suis tout à fait d'accord. Si notre âme était physique, il y aurait un dernier moment. Vous voyez, comme un train, vous voyez. On verrait très bien la locomotive qui passerait dans tous les autres wagons à un moment donné, en les laissant par derrière. Alors il y aura un dernier moment, c'est bien évident. Il y aura un moment, la locomotive passerait devant. Mais parce que la locomotive est comme les autres wagons dans notre monde physique. Mais si notre âme spirituelle n'est pas de ce monde physique, je ne peux pas saisir le dernier moment. Elle est une substance qui informe le corps d'une manière indivisible. Alors je peux saisir les signes. Quel est le dernier signe qui pourrait me dire, ah, il y a encore un vivant. Là, il n'y a plus un vivant. Alors c'est très curieux, c'est qu'ils discutent les uns avec les autres. Et ce sont des discussions infinies, d'une certaine manière. Parce que les uns verront tel signe en fonction d'une mort accidentelle, d'autres mondes verront tel signe en fonction d'une mort lente, très lente. Ce n'est pas les mêmes signes. C'est assez normal. Parce que le vivant dans sa corruption, hein, ils se corrompt différemment. Ils ne se corrompt pas de la même manière, toujours. Alors les signes sont différents. Et les signes cliniques sont différents des signes extérieurs. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme spirituelle informe le corps de cette manière tout à fait particulière, qui est une manière indivisible. L'âme spirituelle touche le corps d'une manière qui est métaphysique et donc qui ne peut pas se voir de l'extérieur. Et plus que métaphysique, plus que divine. L'âme spirituelle touche le corps dans sa potentialité substantielle. En tant qu'il a une potentialité substantielle, une capacité d'exister et une capacité d'être assumée par l'âme pour avoir la même existence que l'âme. Et la mort, c'est le corps qui n'a plus la même existence que l'âme. Oui, c'est quand l'âme, comme une petite colombe, emporte sa propre existence, laissant le corps avec une existence qui n'est plus la même qu'avant. Et c'est ça le propre du cadavre. C'est que le cadavre n'a plus l'existence du corps, n'a plus l'existence de l'âme. Le corps ne subsiste plus dans l'âme. Alors il a sa propre dégradation, sa propre existence. Je souligne ça parce que ça fait partie de ce que nous voyons, n'est-ce pas ? Et c'est intéressant, c'est le point de vue de la mort. Il faut comprendre que l'âme est créée dans le corps. Sans doute, ils ne pourront pas le dire de façon absolue, là encore, ils ne pourront pas le dire de façon absolue, à quel moment ? Comme je ne peux pas dire de façon absolue à quel moment est la mort, j'ai des signes, c'est tout, ce sont des signes, parce que c'est le lien de quelque chose de substantiel et spirituel avec le corps. Or, je ne constate que le corps et je n'ai pas un contact direct et une connaissance directe de l'âme spirituelle. J'aurai l'expérience, hein. Ça oui, j'aurai l'expérience, au moment où mon âme quittera mon corps, ça oui, j'aurai l'expérience, c'est le privilège de celui qui meurt. Il a cette expérience d'une âme qui quitte le corps, et donc l'âme qui est libérée. Mais je n'ai pas eu l'expérience du premier moment où j'ai pénétré dans mon corps, où mon âme spirituelle a pénétré dans mon corps. Cherchez bien. Je n'ai pas eu l'expérience. Pourquoi ? Parce que justement, il y a le conditionnement de la vie humaine qui fait que la personne humaine implique un développement. Même au niveau métaphysique, elle implique un développement. Parce qu'elle est esprit. Alors il y a le développement de l'esprit. Et je n'ai pas eu conscience de ce premier moment. Dieu crée immédiatement mon âme spirituelle. Sans aucun intermédiaire. Vous voyez, l'esprit et l'être sont directement en relation avec le Créateur. Puisque l'acte créateur se termine à l'essai, donc à l'acte d'être, et l'esprit lui-même est dépendant directement du Créateur, la substance spirituelle. Puisque, de fait, je suis immédiatement dépendant de Dieu, je peux progressivement prendre conscience de cette dépendance radicale dans laquelle je suis. Puisque l'acte créateur du côté de Dieu est éternel, et donc cet acte créateur est toujours actuel. Il ne faut pas dire Dieu a créé, et puis après il m'a laissé libre. Il m'a laissé libre. Non, Dieu me crée dans le sens fort. C'est le propre de l'acte créateur. Quand l'acte créateur atteint directement quelque chose, cet acte créateur est éternel. Mais l'effet dans le temps, je prends conscience de cette dépendance à l'égard de Dieu dans le temps. Mais je sais que cette dépendance, elle est radicale. Elle est fondamentale. Elle est quelque chose qui est plus intime à moi-même que je ne suis intime à moi-même. Elle est métaphysique parce qu'elle touche l'être, mais le métaphysicien ne peut même pas l'atteindre. Donc c'est l'ontologie fondamentale. N'est-ce pas ? Il n'y a que là où l'ontologie fondamentale aurait son sens. L'ontologie fondamentale, c'est regarder justement l'acte créateur qui atteint mon être, qui atteint mon âme spirituelle, qui me crée. Je ne peux pas en avoir l'expérience, mais je peux affirmer que je suis dans cet état de dépendance absolue à l'égard de cet être premier. Et je peux comprendre que prendre conscience de cette dépendance, c'est me mettre dans une vérité fondamentale. Et quand je prends conscience de cette dépendance, je peux essayer de comprendre quelles sont les conséquences de cette dépendance. Je dépends directement de l'être premier, par son acte créateur, qui est un acte absolument gratuit, qui est un acte d'amour et un acte de sagesse. Quelle est ma réponse de personne humaine, d'esprit incarné? Quelle est ma réponse? Et c'est là où je découvre, au plan proprement théologique, mais de théologie naturelle, dans une vision de sagesse, je découvre que ma réponse ne peut être que cet acte d'adoration, c'est-à-dire de remise de tout mon être entre les mains, langage symbolique, de celui qui m'a créé. De me remettre entièrement dans son acte créateur, remonter à la source. Je puis faire un tel acte d'amour libre, où je remonte à la source. C'est vraiment une remontée à la source, hein, à la source fondamentale et première. Alors, cet acte d'adoration, cet acte religieux par où je reconnais ma dépendance, alors vous voulez, au point de vue métaphysique, je pourrais ne pas employer d'expression qui sont selon les traditions religieuses. Je crois qu'on devrait, vis-à-vis de cet acte, employer des expressions uniquement philosophiques, mais en ajoutant que cet acte de réponse à l'égard du don actuel du Créateur, cet acte de remise de tout moi-même à l'égard du Dieu Créateur, cet acte est un acte volontaire, qui est un acte d'amour, qui est un acte libre, c'est un velle qui prend toute sa force, parce que c'est tout moi-même qui est remis à cet acte créateur. Et une fois que je dis ça, je peux dire cet acte de remise de tout moi-même à l'acte créateur, au créateur, à celui qui me crée actuellement, c'est ce que les traditions religieuses appellent l'acte d'adoration. Ce serait plus juste, parce qu'il faut respecter le langage. Hein. Dans les traditions religieuses, on parle de l'adoration. Le philosophe doit redécouvrir la signification profonde de cet acte, et ayant découvert cette signification profonde, il reconnaît que cet acte libre, volontaire, par où je remonte à ma source, c'est bien ce que les traditions religieuses appellent adoration. Et alors là, il y aurait toute une étude très intéressante à faire, au point de vue proprement philosophique, ce que les traditions religieuses appellent cet acte d'adoration. Vous voyez, l'adoration, le sacrifice. On rejoindrait les études de Brouwer, mais en les reprenant d'une autre manière, pour essayer de comprendre comment, en effet, selon toutes les traditions religieuses, il y a une attitude religieuse dans le cœur de l'homme. Et que cette attitude religieuse, elle est fondamentale. Tant que je n'ai pas découvert cette attitude fondamentale, je n'ai pas été jusqu'au bout. Mais là, je vais jusqu'au bout. C'est ce qu'il y a de premier dans l'homme. C'est un appétit fondamental de l'homme de retrouver sa source, de retrouver son père. le père de son esprit. Donc c'est l'attitude la plus fondamentale, et une attitude affective, une attitude aimante. C'est le premier amour. Ce n'est pas le premier génétiquement, mais c'est le premier selon de nature. Et donc si je refoule cet amour, c'est le refoulement le plus terrible qui soit. Alors là, il faudrait comprendre comment le fait d'empêcher un être de remonter à sa source, vitalement et d'une façon consciente, c'est l'arrêter dans son appétit le plus profond. Cet appétit qui demande de se remettre entièrement entre la dépendance, entre les mains de celui dont il dépend, son père. Au fond, c'est la redécouverte du Père de notre âme, de notre âme spirituelle. Nous découvrons notre Père au niveau charnel, nous découvrons notre Père au niveau humain, comme nous découvrons notre Mère, nous le reconnaissons. Et il y a une découverte alors beaucoup plus fondamentale et beaucoup plus radicale, c'est la découverte du Père de notre âme spirituelle. Ça, je crois, très important. C'est à partir de là que nous pouvons découvrir la nouvelle personnalité religieuse de l'homme. L'homme est une personne religieuse dans ce qu'il a de plus fondamental, dans ce qu'il a de premier. C'est-à-dire une personne qui reconnaît cette dépendance à l'égard du Créateur, et que la reconnaissance de cette dépendance n'est pas une aliénation. Alors c'est là où il faut reprendre la parole de Plotin au plan philosophique et bien la comprendre, parce qu'elle est très grande. Je crois que Plotin est le premier qui a dit ça. On retrouverait chez les stoïciens aussi des paroles un peu semblables, mais Plotin l'a sûrement dit avec une netteté beaucoup plus grande. Quand Plotin dit « dépendre des réalités qui sont inférieures à nous », c'est une diminution de notre être, disons une aliénation, dépend d'une réalité qui est supérieure à nous, ce n'est pas se diminuer, mais au fond c'est la véritable libération. Je ne suis libéré de tout mon conditionnement et je découvre ma véritable finalité. C'est vraiment une découverte d'une nouvelle finalité. C'est pour ça qu'il y a une nouvelle personne. C'est pour ça qu'il y a vraiment une dimension nouvelle de la personne humaine. Puisque nous avons vu hier que la découverte de la finalité est essentielle à la personne, au plan métaphysique. Si je ne découvre pas ma finalité, je ne découvre pas pleinement ce qu'est la personne humaine. Parce que la personne humaine ne peut pas être uniquement l'autonomie, elle implique un dépassement, et ce dépassement se fait dans la découverte de la finalité. Et alors la découverte de cette nouvelle finalité, qui est cette source de ma vie, source de mon esprit, source de mon être, va me donner une nouvelle liberté. Il y a une nouvelle liberté à l'intérieur de cette reconnaissance. Une liberté qui est au niveau métaphysique. Très curieux. Mais quand on veut définir l'homme métaphysiquement par la liberté, faisons attention, il ne faut pas laïciser cet acte religieux. Mais cette liberté, elle est enracinée dans ce qu'il y a de plus profond en moi. Et c'est pour ça qu'il y a une tentation constante d'identifier mon être et ma liberté. Au niveau proprement de cette vision du jugement de sagesse, donc dans la lumière de la création, c'est très vrai que cette remontée à la source fait que je connais à ce moment-là une liberté nouvelle parce que je suis libéré de tout le conditionnement de mon individuation. Je suis libéré de toute la dépendance à l'égard de l'atavisme. C'est une fameuse libération, ça. Et je découvre cette dépendance immédiate à l'égard de Dieu. Quand je dis libérer, ça ne veut pas dire que c'est supprimé. Ça veut dire que je l'assume. C'est-à-dire que je le dépasse. Et je comprends qu'il y a en moi un nœud plus profond, plus important, qui est ce lien avec le Créateur. Et ceci purement dans la ligne philosophique, hein, même si aucun philosophe ne l'affirme aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Parce que les philosophes anciens le reconnaissaient. Un Plotin le reconnaît. Ce n'est pas à cause de ça que c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que de fait, il y a là une recherche que nous devons faire pour essayer de comprendre ce que c'est qu'une philosophie religieuse. Tant qu'on n'a pas fait ça, on fait l'histoire des religions. L'histoire des religions n'est pas une philosophie, c'est l'histoire des religions. Tandis qu'une philosophie religieuse doit aller jusque-là. Une philosophie religieuse ne peut se faire que dans la lumière de la création. Et dans la lumière de la création, je comprends alors cette dépendance radicale et cette réponse à cette dépendance radicale. Cette dépendance radicale dans laquelle je suis au plus intime de mon être, au plus intime de ma vie spirituelle, et je reconnais cette dépendance. Alors, comprenez bien, quand j'ai dit liberté au niveau métaphysique, comprenez bien ce que ça veut dire. Liberté, ça ne veut pas dire qu'il y a un acte métaphysique, hein, non, pas du tout. C'est un acte volontaire et libre, et cette liberté naît dans cet acte volontaire et libre, mais cette liberté rejoint l'acte créateur de Dieu. Et donc elle rejoint la source de mon être. Et c'est en ce sens-là que c'est une liberté qui a un caractère unique. C'est pour ça que je peux dire que là, ce que je disais, on est devant une ontologie fondamentale. Alors, quelle est cette personne religieuse? Parce que c'est important de saisir ça. Quelle est cette personne religieuse que je saisis à partir de la reconnaissance de cette dépendance à l'égard du Créateur? Cette personne religieuse va unir l'autonomie et la dépendance. Puisqu'on va reconnaître que ma substance spirituelle est totalement relative à l'égard du Créateur. Donc je ne regarde plus seulement la substance comme principe d'autonomie, je regarde ma substance spirituelle, c'est-à-dire mon âme spirituelle, étant créée directement par Dieu, qui est dans cette dépendance radicale à l'égard de Dieu. Et je vois qu'à ce niveau, autonomie et dépendance peuvent aller de pair. Et ça, c'est une très grande découverte au point de vue de la personne. Hein. C'est qu'il n'y a pas d'opposition. La dialectique de l'opposition entre l'autonomie et la dépendance est totalement dépassée. Alors, il faut le comprendre sous tel ou tel aspect. L'autonomie, c'est parce que la substance est principe selon la forme. Donc, elle est dans l'ordre des déterminations, elle est principe. C'est là l'autonomie. Et la dépendance est dans l'ordre de l'essai, acte d'être. Dépendance radicale dans l'acte d'être et autonomie dans la source de toutes les déterminations. Et c'est en ce sens-là que je peux comprendre que cette autonomie est source de liberté et que cette dépendance, quand elle est reconnue, est source d'un dépassement. À partir de là, je comprends que ma finalité est nouvelle. Ma finalité est de reconnaître, dans la mesure où je le puis, remonter à ma source première, qui est mon bien. Donc, c'est dans l'adoration et dans la contemplation que je découvrirai cette nouvelle dimension de ma personne humaine. L'acte. L'acte, n'est-ce pas, appliqué ici, c'est de découvrir ce nouveau bien. Et ce bien suprême, ce bien dernier, c'est de rejoindre la source première, de rejoindre le Créateur, dans la mesure du possible, par l'adoration et la contemplation. Alors, c'est ici où il faut comprendre ce que c'est que la contemplation philosophique. Il y a une contemplation philosophique. Il y a une contemplation philosophique qui est à partir de cette prise de conscience très nette de ma dépendance radicale à l'égard de Dieu. Je proviens de lui et je dois remonter à lui. Et la contemplation philosophique, cette contemplation au-delà de la métaphysique, voyez, cette contemplation théologique, si vous voulez, en comprenant bien, en mettant entre parenthèses, pour qu'on comprenne bien qu'il ne s'agit pas de la foi, qu'il s'agit tout simplement de la prise de conscience plus nette de ma dépendance à l'égard de Dieu, cette contemplation va me donner le bonheur. C'est dans cette contemplation que je trouve le bonheur, c'est-à-dire la possibilité pour ma personne humaine d'être pleinement elle-même. Elle est pleinement elle-même en retrouvant sa source, en l'aimant et en la contemplant, dans la mesure du possible. Ça, je laisse ici pour me traiter de la contemplation. Vous voyez dans Aristote, au livre 10 de l'éthique. C'est intéressant de voir cela, au livre 10 de l'éthique. Toute l'éthique se termine par ce point de vue de la contemplation, c'est-à-dire par où la personne humaine a ce dépassement plénier à l'égard de cette contemplation vis-à-vis du bien suprême. Et en même temps, il y a une nouvelle dimension du côté de la recherche de la vérité. Les deux aspects qu'on avait vus. Vous comprenez que cette contemplation donne à ma personne humaine une valorisation beaucoup plus grande. C'est évident. Si je peux contempler le Créateur, si je suis capable de le contempler, de le rejoindre, ça donne à toute ma vie humaine une signification nouvelle et une signification beaucoup plus profonde. Parce que Dieu ne meurt pas. Et ma contemplation est quelque chose d'éternel. La vie peut toujours mourir. Tandis que Dieu ne peut pas mourir. Dieu est pour la personne humaine religieuse est de fait ce qui achève en plénitude cette personne religieuse, qui lui donne sa signification plénière. Et la recherche de la vérité, je pourrais dire la même chose. C'est qu'en découvrant l'être premier, je découvre une vérité première qui s'identifie à mon bien. C'est le cas tout à fait particulier. Aucune autre vérité n'est mon bien suprême. Tandis qu'ici, c'est mon bien, cette vérité. Et cette vérité donne la signification à toutes les autres vérités. Donc, il donne une sécurité beaucoup plus profonde. Une vérité beaucoup plus grande. Je n'atteins pas Dieu comme le garant de la vérité. C'est pas ça du tout. J'atteins Dieu comme la vérité première. Comme celui qui donne la signification à toutes mes autres recherches. Donc, vous voyez que la personne religieuse prend une signification ultime comparativement à ce que représente la personne au niveau métaphysique. Parce que cette personne religieuse se comprend relativement au Créateur, face au Créateur, dans la remontée vers le Créateur. Et donc, il y a une saisie beaucoup plus radicale. Je dis bien, c'est l'ontologie fondamentale. Une saisie beaucoup plus radicale, puisque c'est dans la lumière même de la création que je vois cette autonomie et cette dépendance, que je comprends cette contemplation, que je vis cette contemplation, et que je saisis cette vérité première. Comprenons que tout le conditionnement de mes opérations vitales, tout le conditionnement de mon corps physique qui est en mouvement demeure. J'assume mon corps, j'assume ma vie biologique, mais elle demeure. Elle n'est pas supprimée pour ça. Et donc cette personne religieuse qui reconnaît sa dépendance à l'égard de Dieu, reconnaît qu'il y a possibilité d'un progrès incessant. Et reconnaît aussi qu'il y a des moments où ce sera particulièrement difficile. Parce qu'au fond, l'homme, en voulant atteindre son Créateur, se met dans une situation de surhomme. Là, on peut dire, comme il y a une ontologie fondamentale, il y a quelque chose qui est du surhomme. Découvrir lors de l'amitié, c'est humain. Découvrir le créateur, c'est quelque chose qui dépasse l'humain. Et donc, ça me met dans une situation de surhomme. L'attitude religieuse, et c'est pas étonnant que l'attitude religieuse alors soit si difficile à vivre, parce que donc, ça demande des luttes plus grandes. Donc le conditionnement, loin de disparaître, m'apparaît avec beaucoup plus de force. Il m'apparaît comme quelque chose qui risque toujours de m'arrêter, que je dois respecter, donc je dois être d'autant plus prudent pour assumer ce conditionnement et faire que ce conditionnement ne se mette pas dans un état d'opposition à l'égard de l'exigence de la contemplation et de la recherche de la vérité.